Bonjour à tous. Avec Pasteur Vellemann, on est revenu jeudi soir. On a eu un bon temps. C'était vraiment un temps extrêmement béni. Et vous avez les salutations, bien sûr, de l'Église en Hollande et aussi des frères de l'Église en Serbie, en Macédoine, qui envoie les salutations. Donc, c'était vraiment un temps privilégié et béni pour, grosso modo, pour juste mettre les gens au courant avant qu'on commence le message. On est invité par la mission Balkan Mission, la mission des Balkans, qui est une mission finalement par des gens d'affaires, deux, trois pasteurs, qui depuis à peu près 30 ans soutiennent un homme, un Serbe, que M. Vellemann père avait rencontré à Londres, ou en tout cas en Angleterre, dans une conférence. Et il avait vu finalement le témoignage de cet homme, puis à l'époque, il était finalement, c'est sûr, sous le communisme, donc c'était pas nécessairement toujours très facile, mais c'est vraiment un homme avec une foi, on pourrait dire, virile. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas un régime non plus, c'est pas la prison, puis c'est rien qui va l'impressionner. Et il y avait vraiment un fardeau énorme pour son peuple, les Serbes. Alors, il avait même dit, finalement, comme ça, par hasard, dans une discussion, ce qui avait déclenché tout le processus, c'est qu'il devait choisir entre publier un livre qu'il avait écrit pour l'instruction des gens ou d'acheter des vêtements chauds pour l'hiver qui s'en venait pour les enfants. Et puis, il a décidé devant Dieu en disant, écoute, on va m'arranger autrement, voici, mais c'est important que le message sorte. Alors, il avait décidé par la foi de faire passer l'œuvre. Et quand son père a entendu ça, pour lui, c'était vraiment comme un appel en disant, écoute, on va t'envoyer de l'argent, tu vas avoir de l'argent pour acheter des vêtements pour tes enfants. T'sais. Et c'est comme ça qu'un peu leur mission a commencé ensemble. Fait que le monsieur est rendu assez âgé maintenant, quand on l'a rencontré, c'est impressionnant de voir le nombre de livres que le monsieur a écrit. Vraiment, là, c'est... Hein? Le gars... En tout cas, bref, c'est impressionnant. Et la Fondation hollandaise, ces gens d'affaires, ont soutenu afin qu'ils puissent donner. Les gens appellent, les gens écrivent et ils envoient finalement sa littérature gratuitement. En plus, ils payent la poste. Donc, c'est toute cette fondation qui s'est occupée de ça depuis 30 ans. Fait que c'est vraiment impressionnant. Son plus jeune frère, à M. Simo, lui a mis au point un collège biblique. La logique veut que si tu veux qu'on ait quelque chose pour la prochaine génération, il faut faire de l'instruction. Alors, ils ont commencé un collège biblique à Niche, qui est un peu plus loin, était à Belgrade ou dans la région de Belgrade, je pense, c'est ça. Et puis, la personne est descendue plus vers le sud, en Macédoine, à Niche, pour aller voir le collège biblique. Vraiment bien organisé, ça fait 2-3 ans seulement qu'ils sont en opération. Et la fondation voulait qu'on aille voir s'il y avait une possibilité que cette école biblique se mette sous l'autorité de la faculté pour être un campus en Macédoine. Bon, fait que là, Dr. Vellemann, c'est lui, c'est sa job, c'est pour ça que je le paye. Gros salaire, pour ça. Non, mais dans le sens qu'il va vérifier, voir, pour mettre à niveau universitaire, pour que ça puisse entrer sous la faculté, donc on est en train de préparer le projet, le soumettre après ça au conseil d'administration de la faculté, et on va voir comment Dieu va ouvrir le processus. Donc, ça a été vraiment un voyage extrêmement intéressant. On a eu, naturellement, des conversations assez intenses, bénies. C'est vraiment, en tout cas, vraiment, vraiment béni. Voilà. Peut-être un moment donné, on pourrait demander au pasteur Vellemann d'en parler, hein, de raconter un peu le voyage, ça serait super. Puis il a pris une photo, des photos, il a mis ça sur Facebook. On fait drôle un petit peu en dessous des parasols roses, hein, vraiment. Ouais, 5 des temps, putain. OK, ben voilà, c'était un petit peu le rapport. Aujourd'hui, je nous propose seulement la lecture de la parole de Dieu dans cette préparation maintenant du deuxième voyage de l'apôtre Paul. Et puis, j'aimerais ça qu'on puisse voir ensemble l'importance de notre formation en tant qu'individu et en tant que communauté. Et puis, je pense que les textes ici vont vraiment nous encourager à atteindre la maturité par une formation comme le Seigneur la veut. Donc, on pourrait lire à partir du verset 30, 15-30. On est dans le contexte où l'Église à Jérusalem a écrit cette lettre pour qu'il y ait une entente, une rencontre entre l'aspect juif et païen dans l'Église de Jésus-Christ. C'est un processus qui va amener la paix, qui va empêcher l'Église de se diviser, de faire un schisme, parce que certains pourraient dire, nous, on est juifs, nous, on est orthodoxes, nous, on a Moïse, nous, on a une tradition, et donc, on ne veut pas perdre cette richesse. Parce que les païens arrivaient, eux, avec aucune histoire avec Dieu en tant que nation. Et ils avaient finalement des mœurs qui peut-être choquaient énormément les Juifs au niveau de la nourriture, du linge, les cérémonies, toutes ces choses-là. Donc, les apôtres, les anciens, comme on a vu à Jérusalem, avec finalement l'Église, sont arrivés à un point où comment faire entrer les païens et faire progresser les Juifs dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Et c'est pas facile d'abandonner quelque chose de bon. C'est facile d'abandonner quelque chose de pas bon. La plupart d'entre nous, lorsque le Seigneur nous saisit, qu'on commence seulement à découvrir le Seigneur Jésus-Christ, on entend beaucoup de messages, puis on est beaucoup exhorté à abandonner nos mauvaises habitudes. Et puis c'est normal. Mais trop souvent dans nos églises, on n'apprend pas aussi à abandonner ce qu'on faisait de bien, qui nous distinguait des autres et qui produisait du mépris sur les autres. Et là, les Juifs ont vraiment un moyen défi. Ils doivent laisser tomber, à leurs yeux, beaucoup. Et imaginez les premiers pasteurs païens qui enseignent à des vieux Juifs chrétiens. Le comble de l'humour de Dieu. Imaginez un esclave païen sauvé par Christ, ramené à son maître et éventuellement devient le pasteur de l'Église et qui enseigne des vieux juifs chrétiens. Vous avez le cocktail par excellence pour se péter la tête sur les murs. Vraiment, on oublie ces choses. Peut-être dans certains pays, est-ce qu'un blanc va aller s'asseoir dans une église où il y a un noir qui enseigne la parole de Dieu, qui est le pasteur? Le racisme ne vient pas de ce qu'on est méchant. Le racisme vient de ce qu'on pense qu'on est meilleur que les autres. Ça vient de notre bon. Que Dieu puisse l'abattre sans merci. Le Saint-Esprit s'acharne à détruire ce qui est pour nous un gain contre le frère. Et trop souvent, c'est négligé. On met beaucoup d'emphase sur devenir meilleur. Beaucoup, beaucoup d'emphase sur devenir meilleur. Mais c'est rare qu'on met l'emphase sur est-ce que ça produit de l'humilité? Est-ce que ça fait de nous des meilleurs serviteurs? Est-ce qu'on est reconnaissant de la grâce qui nous a été faite ou on est fier, puis on comprend, puis on finit quasiment comme le pharisien qui va prier au temple? « Je te loue, Seigneur, que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Donc, moi, en tout cas, je suis extrêmement impressionné de voir comment l'Église de l'époque a vraiment réussi à empêcher un schisme. Il y a eu un premier point qui aurait pu faire une division énorme, mais le Seigneur Jésus avait déjà préparé ses apôtres à abandonner cette haine contre les Samaritains. C'est Jésus, finalement, qui introduit quasiment les Samaritains aux apôtres. Rappelez-vous Jean et Jacques. Quelle était la demande qu'ils ont demandée au Seigneur quand ils sont venus d'un village de Samarie? « Fais tomber le feu du ciel. » Il ne parlait pas du Saint-Esprit, là. Là, là, il parlait vraiment, il se rappelait de Élie qui faisait détruire les méchants. Ils avaient été rejetés du village. C'était des Juifs. Plus ça change, plus c'est pareil. Donc, le défi ici maintenant, c'est de prendre cette lettre, retourner à Antioche et de dire, voici l'entente qui a été faite, ce qui a encouragé énormément l'Église d'Antioche. Donc, verset 30 dit, « Eux donc, ayant pris congé de l'Église, ici à Jérusalem, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres, dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de silence et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Ils parcoururent la Syrie et la Cilicie, fortifiant les frères. C'était la lecture de la parole de Dieu. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on puisse remarquer dans ce texte, c'est que l'Église, elle est fortifiée d'abord et avant tout par des discours. Souvent, on peut entendre des gens dire « OK, OK, c'est bien beau parler, là, mais il faut agir. » Hein, vous avez déjà entendu ça? Ah, il faut agir, il faut être concret, il faut agir. Mais le problème, c'est que ces gens-là souvent oublient qu'agir est le résultat de ce qu'on a entendu. Ou peut-être que ces gens-là n'ont pas besoin d'entendre pour agir, ce qui monte un peu leur niveau d'intelligence. L'idiot, il pense qu'il sait tout avant de savoir. Le propre d'un ignorant, c'est de vraiment penser que c'est du temps perdu que d'étudier puis de prendre le temps de comprendre. Vous avez juste à regarder un couple, et beaucoup de chicanes se font souvent parce que l'autre a déjà décidé ce que ça veut dire que ce que l'autre est en train de dire. Et puis les gens n'ont même pas le temps de finir ce qu'ils ont dit, qu'ils ont déjà répliqué quelque chose. Et puis ils ne comprennent pas que l'autre veut lui arracher la tête. Ils ne comprennent pas. Elle est donc excessive. Donc finalement, il y a un gros problème chez ceux qui n'ont pas d'intérêt à écouter autre chose que leur propre discours. Ils aiment s'entendre penser et réfléchir. C'est le propre un peu de certaines personnes. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle ne peut pas être sans la parole de Dieu. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était déjà venu à notre église il y a plusieurs années, fait que personne ne se sent visé, là. Il y a plusieurs années, il y a une personne qui était venue à notre église, puis elle avait resté une couple de mois, tu sais, puis quasiment un an. Puis à la fin, elle est venue me voir en me disant, non, je dois partir parce que, écoutez, dans votre église, c'est trop la Bible. Je dis, ouais, mais il fallait regarder le nom que Dieu nous a donné comme église. La Bible parle. Fait qu'elle trouvait qu'on avait pas assez le Saint-Esprit, qu'on avait trop la Bible. Mais je l'ai quand même pris comme un compliment. Honnêtement, là, c'était quand même bien, tu sais, j'étais content. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on apprécie, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on déteste, tout ce qui réagit en nous est toujours précédé de ce qu'on a déjà compris quelque chose. Il y a un théologien qui a essayé de définir comment le péché affecte les gens en venant dans le monde. Il dit « Le péché produit un présupposé. Le péché produit une colère contre Dieu en partant. » C'est même pas notre colère à nous originale. T'sais, c'est pas que nous, on a décidé un jour de se mettre en colère contre Dieu, qu'on est rebelle par nous-mêmes. Ça serait se donner un peu trop d'honneur. C'est le péché, littéralement, en nous. Quand Paul parle, puis le chrétien est supposé d'être celui qui le voit le plus clairement dans sa vie. Romains chapitre 7, c'est un croyant. C'est un croyant. Paul est un croyant qui maintenant doit gérer de voir à quel point il est rebelle et en même temps qu'il est finalement obéissant à Dieu. Il veut et il ne veut pas en même temps. C'est vraiment bizarre, mais si quelqu'un doit réaliser ce principe-là, c'est le croyant. La colère qu'on a contre Dieu, c'est le péché. Et c'est un présupposé. Il est avant même qu'on ait commencé à réfléchir. On commence à vivre et à agir en fonction de ce présupposé. Tous sont séparés de Dieu. On est séparés de Dieu par conception en partant. Séparés de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas une vraie connaissance de lui. Car si on avait une véritable connaissance de Dieu, on l'adorerait. Donc, si je ne suis pas dans une attitude d'adoration devant ce Dieu, c'est que j'ai un autre filtre. Qui t'a appris que tu es nu? Genèse chapitre 3. As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendue? Qui te donne une nouvelle définition de ce que moi, j'avais déjà donné comme interprétation? Avant d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme et la femme voyaient exactement comme Dieu définissait les choses. Alors, il n'y avait rien en eux qui était contraire à la volonté de Dieu. Mais lorsqu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit « leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. » Ils n'étaient pas aveugles avant dans le jardin. La preuve, quand Dieu a amené la femme, Adam a très bien vu et il a très bien décrit « voici cette fois os de mes os et chair de ma chair ». Mais après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est plus sa femme, c'est la femme. La femme que tu as mis auprès de moi. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas vu finalement ça dans notre vie, vous risquez de ne pas avoir tellement d'appétit pour la parole de Dieu. Parce que vous êtes déjà rassasié d'une autre parole. Alors l'Église ici, normalement, est une, on pourrait dire une entité qui a faim et soif de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit des choses. On a retrouvé celui qui donne le sens. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Faute de cette lumière, on marche dans la lumière d'un autre. Vous vous appréciez dans le concept de quelqu'un d'autre. Nous sommes à l'image de Dieu ou nous sommes à l'image du prince des ténèbres. Nous sommes analogiques. Nous sommes façonnés. Et ce qu'on s'est donné comme impression par nos philosophes dans la grande rébellion qu'il y a eu, entre autres, vers le 19, surtout peut-être, la société finalement vers le 15e, 16e siècle a eu un choix. Se tourner vers Dieu, ce que certaines nations ont fait, ça a produit la réforme. Et d'autres nations décident de se tourner vers l'homme, ce qui était la Renaissance. Et dans la Renaissance, l'homme est redevenu le centre. C'est l'homme par l'homme pour l'homme. Et ça va aussi loin aujourd'hui que les gens sont tous en train de s'évaluer eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que moi? Où suis-je? Qui suis-je? C'est le grand suis-je. Tout le monde se cherche. Tout le monde se cherche de manière maladive. Mais celui qui est intelligent, c'est celui qui a trouvé le Seigneur, ou plutôt qui a été trouvé par le Seigneur. Ça y est, il vient retrouver l'intelligence. Dieu dit, qui est intelligent? Et j'aimerais juste nous rappeler une chose aussi, pendant que ça va bien. Tu sais, j'ai qu'un personne le matin, ça va bien. Non, c'est le temps de régler les problèmes avant qu'il y en ait. Fait, quand ils vont venir, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je ne l'ai pas dit personnellement, je l'ai dit à la situation. Ça va bien? Bon. Il ne faudrait pas confondre de l'habilité intellectuelle avec de l'intelligence. Ça marche. Il y a des gens là, qui comprennent vite. Le hamster dans leur tête, là, il court vite. Ils comprennent vite. OK, puis là, c'est impressionnant, ces gens. Ils comprennent vite. Fait qu'on dit, wow, son nom est intelligent. Attends. Pas encore. Parce qu'ils peuvent te dire vite ce qu'ils ont compris niaiseusement. C'est pas nécessairement qu'ils sont intelligents. Parce que de l'intelligence pour Dieu, c'est est-ce qu'il m'a connu? Est-ce qu'il a discerné la volonté de Dieu? Ça, c'est de l'intelligence. Le reste, c'est juste courir plus vite à ta destruction. Il y en a qui courent plus lentement. On sait qu'on s'en va, là. T'sais? Puis il y en a d'autres. Vite. Mais les deux, s'ils n'ont pas rencontré le Seigneur, ils sont encore dans la mort. Ils marchent stupidement vers la mort. Il y en a qui courent vite, puis il y en a qui vont plus lentement. Dans le Seigneur, c'est la même chose. Il y en a qui ont de l'habileté intellectuelle rapide. Il y a des gens, c'est impressionnant, ils vont lire un livre rapidement, ils te font une synthèse, c'est compris, ils peuvent te répéter le livre. Est-ce qu'ils ont cru, ça c'est une autre histoire. Mais ils sont capables néanmoins d'avoir cette capacité intellectuelle de saisir des concepts à une très grande vitesse. Il y en a d'autres, ça leur prend un peu plus de temps. Mais c'est pas grave, si quelqu'un est saisi par le Seigneur qui est en train de découvrir, il reçoit ce que Dieu dit de lui-même, il reçoit la parole de Dieu, alors il reçoit de l'intelligence. Qui t'apprend? Qui est à l'origine de ce que tu crois savoir? C'est une grande question, finalement, philosophique. Comment tu sais ce que tu sais? Es-tu sûr de l'interprétation que tu donnes aux choses? Celui que le Seigneur, finalement, trouve. Et celui à qui le Seigneur ouvre les yeux, à qui il accorde son conseil, alors là, on devient intelligent. Dans un monde de fous. Mais le chrétien, étrangement, est un homme intelligent, une femme intelligente, mais qui sait une chose que le fou ne sait pas. C'est? Il sait qu'il est fou. Le fou qui ne sait pas qu'il est fou, il est plus fou que le fou qui le sait. Un chrétien, c'est un fou qui sait qu'il est fou. Il sait. Donc, c'est pour ça qu'il fait confiance à en dehors de lui. À moins que vous deveniez comme des petits-enfants. Qu'est-ce qui est caractéristique d'un enfant? C'est sa pauvreté. Un enfant, c'est pauvre. Ça ne possède rien. Ça dépend entièrement de l'extérieur. Et le Seigneur veut qu'on retrouve cette attitude, cet état face à sa parole, face à lui. Et souvent, quand tu comprends pas quelque chose, c'est pas grave. C'est Dieu qui le dit. Puis ça règle le problème. Des gens disent, je suis pas d'accord, c'est Paul, c'est Jean, c'est... Non, c'est le Seigneur en arrière de Paul, en arrière de Jean. On va laisser Paul puis Jean tranquille. Puis on va simplement recevoir la parole de Dieu pour ce qu'elle est. C'est la parole de Dieu. Je veux dire, des fois, tu lis des livres. Tu dis, hey, chum, il y a du monde qui a du temps à perdre. Donne-moi le conseil. Non, ben, je suis pas. Puis là, ça niaise pendant une demi-heure de temps avant de te donner, finalement, OK, là, on va te donner le texte. Ça veut dire ça, je n'y crois pas, je pense que c'est plutôt pas. On s'en sac. Dis-moi ce qu'il dit, le texte. Dis-moi ce que le texte dit. Parce que la foi vient de ce que j'entends, ce que j'entends vient de la parole de Christ. Fait que même si le savant, il est tout mêlé dans sa tête, mais il connaît bien sa grammaire, puis il me donne la grammaire, tant mieux, la grammaire est bonne. Le gars, il est fou, mais la grammaire est bonne. Puis je veux juste savoir ce que le texte dit. Donc, quand je regarde ce texte, je vois finalement des gens qui réfléchissent à partir de la lumière de Dieu. Ils vont donner la lettre, l'Église se réjouit, il n'y a pas de division qui va arriver, on s'attend, les Juifs vont être un petit peu moins scandalisés, mais eux, ils laissent des choses. Les païens vont faire plus attention, ils viennent d'une culture un peu comme... On est en train d'hériter en ce moment, malheureusement. Par exemple, pourquoi les apôtres et les anciens Jérusalem vont mettre, entre autres, d'avoir pas d'impudicité? Bien, la débauche était rendue quelque chose de tout à fait ordinaire. J'entendais hier quelque chose à la radio, je n'en revenais pas. C'était des échangistes qui parlaient de leur expérience à Radio-Can. La radio d'État payée par nos taxes. Ça me fait toujours drôle de penser que c'est la radio d'État. Il y a d'autres choses qui sonnent dans ma tête. Mais bon, Et puis là, il expliquait qu'il n'y avait rien. Là, c'est comme, écoute, d'un fois, tu vas aller manger dans un restaurant, puis d'autres fois, tu vas manger dans un autre restaurant, et puis d'un fois, tu veux faire telle chose. Puis là, il parlait de leur sexualité comme si, aujourd'hui, je pense que je vais manger une poutine. Puis là, tu te dis, attends, t'es pas gêné? Tu sais, mais sans que tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, sans que tu te mets pas tout nu devant personne, tu sais, une petite gêne, ça, ou quelque chose. Je comprends pas. Tu ne connais pas, cette personne-là. Puis, ils parlaient de leur expérience, puis ils banalisaient ça. J'en revenais pas. Je me disais, attends, comment ça se passe dans leur tête? Ils vivent où? Tu vois bien? Puis là, ils donnaient des trucs, c'est vrai. Ils disaient, il faudrait pas commencer avec des gens que tu connais trop. Parce qu'elle dit, écoute, si tu commences avec quelqu'un avec qui tu travailles au bureau, ça fait dur. Le lundi, quand tu rentres au bureau, si ça a mal été, tu sais, c'est plat de dire non, t'étais pas tellement bon. Moi, j'étais là, attends, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. C'est quasiment aller aux toilettes devant quelqu'un. Pensez pas. Je lui dis, écoute, on est rendu dans quel monde de malade mental? Puis eux autres, ils nous parlent comme si nous autres, on est une gang de retardés. Comment t'es avec la même femme depuis tant d'années? Mon pauvre, toi, t'es en train de manquer finalement la parade. Pour vrai, t'es là. Pourquoi il se passe-tu d'autres choses avec quelqu'un d'autre? Puis t'as connais même pas. Il y a une banalisation du mal spectaculaire. Là, l'Église va être obligée de dire maintenant, si vous dites que vous êtes croyant, ça sera pas juste gênant maintenant de témoigner que vous êtes chrétien. Moi, quand j'ai commencé à témoigner que j'étais chrétien, c'était face à des gens qui se disaient chrétiens catholiques. OK? Puis là, on s'argumentait un peu, tu sais, puis c'était la grosse affaire à l'époque. Puis on faisait, tu sais. Mais là, tu parles, même les catholiques sont avec nous autres, les orthodoxes sont avec nous autres, on est tous les chrétiens en train de regarder le monde en disant, bon, écoute, on chicanera tout à l'heure, là. Pour l'instant, ça va tellement mal ici. On va mettre de l'ordre. Après, on se retapera-tu, OK? Garde ça dans le frigidaire, on viendra tout à l'heure. Et puis là, on regarde le monde en disant, attends, où c'est qu'on est rendu? Où c'est qu'on est rendu? Là, on est obligé, la lettre serait même bonne pour nous dire, en disant, écoutez, si vous venez ici à l'Église, puis que le Seigneur vous saisit, on vous demanderait de ne plus coucher avec n'importe quoi. Oui, parce que c'est même des n'importe quoi, ça. C'est même pas n'importe qui. Ils savent plus qui ils sont. Il y a toute une série de lettres à côté de ton nom à cette heure. C'est pas des diplômes, c'est au secours, je ne suis plus ce que je suis. Puis on rajoute quasiment à trois semaines, il y a une nouvelle définition. Il y a les L, G, B, T. Ça a l'air comme un McDonald's. Il n'y avait pas une affaire de même à un moment donné? Même BLT, OK. Et puis, ça, tu sais, puis là, il en rajoute. À chaque semaine, il y a un nouveau qui arrive. Non, moi, je suis pour les écureuils. OK. Non, c'est vrai, on en rajoute à tout ça. On dit, y a-t-il une limite à cette folie-là quelque part? Tu comprends? Mais tu dis, où c'est qu'on est rendu? Donc, ils disent aux chrétiens païens, « Bon, écoutez, il faudrait peut-être laisser tomber les écureuils puis revenir à du monde normal. On vous demanderait de faire ça, ce qui serait très bon pour vous, sans passant. » Et c'est vrai, on est quasiment rendu... Honnêtement, là, ça a l'air peut-être ridicule ce que je vous dis, mais si on n'est pas en train de retrouver de A à Z ce que Dieu dit qu'on est, qui vous a donné l'interprétation de qui vous êtes? As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? T'as honte maintenant de ce que t'es? Comment ça se fait que t'as honte de ce que t'es? Pourquoi tu te caches derrière toutes tes réalisations? Pourquoi tu arrêtes sans arrêt de parler de tout ce que tu fais pour impressionner tout le monde? De quoi tu te caches, monsieur, madame, j'ai honte? As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? L'homme avait besoin de rien avant pour vraiment apprécier qui était pour Dieu. Il aimait ce qu'il était pour la gloire de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Et quand il a vu l'autre, un lui-même au féminin, il a aimé ce qu'il a vu parce qu'il le voyait comme Dieu définissait les choses. Et c'est tout ça qu'on a perdu avec le péché. Mais, par la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ, l'Église retrouve, parole par parole, ce que Dieu dit des choses. Et le Saint-Esprit illumine dans notre entendement, comme Paul priait pour l'Église des Éphésiens et les autres, il prie que cette parole puisse produire cette lumière, cette illumination dans l'entendement pour revoir à nouveau l'autre comme Dieu le définit, nous comme Dieu nous définit. Et surtout, qui est Dieu? Qui est Dieu? Le Fils nous révèle le Père révèle le Fils, et puis finalement, ça devient tout un renouvellement d'intelligence. Et inévitablement, vous avez un renouvellement de comportement. Le voleur ne vole plus, il croit que Dieu pourvoit. Le menteur ne ment plus. Comment tu veux marcher avec le véritable quand tu es menteur? Alors, finalement, ils sont en train de fortifier l'Église en disant « Maintenant, voici la bonne nouvelle. » Et c'est deux prophètes qui sont partis avec Barnabas et Paul. Jude et Silas. Des prophètes. Et ça, c'est le grand débat aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des prophètes? Maintenant, il y en a qui disent oui, puis il y en a qui disent non. Si vous avez une position qui dit oui, lisez Gruden. Lui, dans sa systématique, qui pense que les dons sont opérationnels encore aujourd'hui, et aussi certains ministères, dont celui des prophètes. Mais il définit vraiment d'une manière intéressante qu'est-ce qu'un prophète. Ceux qui disent non vont vous dire pourquoi il n'y a plus de dons aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus de prophètes, ça. Mais ils ont, vraiment étrangement, tous les deux la même définition du prophète du Nouveau Testament. Le prophète du Nouveau Testament, contrairement au prophète de l'Ancien Testament, c'est quelqu'un que tu peux écouter, mais que tu dois juger et retenir ce qui est bon. Le prophète de l'Ancien Testament, tu ne juges pas pour retenir que ce qui fait ton affaire. C'était ainsi par l'Éternel. Donc, au fond, ceux qui remplacent les prophètes de l'Ancien Testament, c'est les apôtres. Et les prophètes sont ceux de la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu maintenant qui a le Saint-Esprit et qui peut s'exhorter les uns les autres, se fortifier, s'encourager. Il y a vraiment une onction. On a reçu finalement quelque chose de plus que les saints de l'Ancien Testament. Attendez la promesse du Père. Bon, mais c'est quoi cette promesse-là? Il va être au milieu de nous. Le Saint-Esprit va nous être accordé. On est une communauté qui a quelque chose de plus que l'ancienne communauté. Donc, qu'on soit pour ou non, la définition du prophète du Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui, sous l'onction, le Seigneur s'en sert, le Saint-Esprit peut s'en servir pour encourager, exhorter. Il peut ramener les gens à montrer finalement le problème. Après ça, comment ils consolent avec l'Évangile. Les prophètes, par exemple, dans le livre des Actes, si vous les lisez, si vous regardez qui ils sont, vous allez remarquer qu'ils ont des maturités différentes. Vous vous rappelez, d'après moi, le prophète le plus mature des Actes, c'est qui? Bien nommé. Comment? Non, quoi qu'il était prophétique pas mal. Mais un autre qui était un peu Agabu. Agabu, finalement, c'est vraiment le prophète qui, on le voit au début, là, des gens qui viennent vers l'église à Jérusalem, il dit, bon, préparez-vous, il va y avoir une famine. Fait que là, les gens, oui. Fait que lui, Dieu, il dit qu'il va y avoir une famine qui s'en vient. Alors, l'église a commencé à s'organiser et c'était une des raisons pourquoi on faisait des levées de fonds en passant dans les nations païennes autour pour aider les saints de Jérusalem qui vivaient cette famine-là, entre autres, de manière plus sévère que les autres. Donc, ce Agabu, il annonce des choses qui vont arriver de la part de Dieu. Une deuxième fois, on le voit arriver, un petit peu plus tard, et il annonce à Paul qu'il va être persécuté, qu'il va être lié et qu'il va être traité durement par les Juifs à Jérusalem. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est ce que le Saint-Esprit semble lui dire partout où il va, et dans toutes les assemblées où il y a des prophètes, ils ont toutes la même parole pour Paul. Paul, le Seigneur nous a montré que ça va aller mal sur Jérusalem. Conclusion, ne va pas à Jérusalem. Première partie du message, vraiment le Seigneur. Deuxième partie du message, vraiment le gars qui le donne. Agabu vient, il prend la ceinture, je pense que c'est de Paul, je pense que c'est la cour. Il s'attache, il dit, ça va être comme ça à Jérusalem. Fin du message. Il n'a pas dit, donne-moi mon opinion. Il est assez mature, le gars, pour ne pas te donner son opinion. Mais même l'équipe de Paul, c'est Luc qui nous rapporte le texte. Il dit, et nous, il a commencé à dire, nous, l'équipe, on a commencé, il ne faut pas y aller, Paul. Pourquoi tu voyais, Paul, ils vont te faire mal, puis Paul, vous me faites de la peine. Je fais aucun cas de ma vie. Il veut rendre témoignage. Le gars, là, il vit comme un missile à tête chercheuse. Tu comprends-tu? Je veux dire, le gars s'est réglé dans sa vie. Lui, là, il n'est pas en train de devenir chrétien pour avoir une plus belle vie. En passant, si vous êtes... Ah, je vais vous le dire tout de suite. Si vous êtes devenu chrétien pour une meilleure vie, il y a d'autres églises qui vous offrent ça. Non, je vous le dis, je me souviens de savoir tout de suite en partant. Là. Quiconque veut vivre pieusement Jésus-Christ, ça veut dire pour vrai. Si tu veux vraiment marcher pour vrai avec le Seigneur, pour vrai, puis tu ne te racontes plus d'histoire, puis tu ne fais pas un show de ballon, c'est un vrai, tu vas être persécuté. Ça vous tente-tu? Donc, je sais, mais c'est comme ça. Fait que j'aime mieux vous avertir d'avance. Fait que comme ça, si ça vous arrive, vous direz, ah, ben, on m'avait averti. Par contre, on vous dit souvent, pour remplir les églises, ça va plus vite. Venez, venez à Jésus, il va régler tous vos problèmes. C'est vrai qu'il en règle quelques-uns, mais il nous en cause d'autres. Mais c'est normal, il l'a dit. Il fallait jusqu'au bout du contrat. Okay, il va y avoir des persécutions. Il va y avoir des... Certains qui vont venir au Seigneur vont perdre leur famille. Ben non, moi, je ne veux pas perdre ma famille. Non, mais si tu n'es pas prêt à perdre, tu vas tout perdre. Jésus dit, c'est celui qui est prêt à tout perdre qui va gagner. Celui qui veut tout gagner, va tout perdre. Bref, ces deux hommes-là sont des prophètes et donc ils exhortent puis ils vont encourager l'Église là-bas. Maintenant, ce qui est intéressant... C'est que ce verset-là n'est pas dans la plupart des manuscrits. C'est le verset 34. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos Bibles. Le verset 34, il dit « Quand, au bout d'un certain temps, les frères donc d'Antioche là, ont décidé de laisser partir nos deux frères pour Jérusalem, parce que c'était des gars qui restaient à Jérusalem, il dit que Silas trouva bon de rester. Silas a décidé de rester. Donc, certains textes n'ont pas ce verset, mais on voit bien qu'il est resté pareil parce qu'il est là quand Paul va le choisir. Ça fait que... Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant là-dedans, c'est, regardez bien, « Toutefois, Silas trouva bon de rester. » Parfait. Après ça, c'est marqué « Barnabas, Paul et Barnabas qui demeuraient à Antioche et enseignent, eux autres, ils vont dire, on devrait retourner vers les églises. » Barnabas décide, dit, « On devrait emmener Marc, mon neveu, mon cousin. » Paul, il juge que ça serait plus convenable de ne pas l'amener. Barnabas, il n'aime pas ça. Parce que Barnabas, c'est monsieur grand, c'est monsieur qui croit le meilleur des gens, c'est celui qui étire, tu sais, qui va chercher quelqu'un. Tu comprends? Tu sais, il y a des gens qui ont une compassion, une capacité de ne pas abandonner les gens. Même quand les gens sont désespérants, ces gens-là, ils sont faits pour aller chercher, même quand il reste juste une oreille dans la bouche du loup. Il va essayer de sortir le mouton encore de là. Ça, c'est Barnabas. Mais si on n'avait pas eu ce Barnabas-là, on n'aurait pas non plus Saul de Tarse. C'est qui a cru? C'est qui a été le chercher? C'est qui l'a présenté aux apôtres qui ne voulaient pas le voir? Les apôtres ne voulaient rien savoir de lui à Jérusalem. C'est Barnabas. C'est qui on envoie à Antioche pour savoir si ça a du bon sens ce qui est en train de se passer là-bas? Barnabas. Barnabas, c'est Monsieur Grâce, Monsieur Compassion. Monsieur Repos dans le Seigneur, c'est le surnom qu'ils ont donné. Il s'appelait Joseph. Ils l'ont appelé Barnabas, fils du prophète. Fils de prophète, enfant de prophète. Barnabas, il veut donner une chance à son neveu. Paul ne veut pas. Parfait. Ils ont une vive discussion. Et ça, c'est vraiment triste que deux géants... Mais rappelez-vous, ces deux hommes de foi, ces deux hommes qui marchent avec Dieu, pour tous ceux qui ont une idée un peu trop romantique de l'Église, ça, c'est supposé de vous réveiller. Je ne peux pas croire que mon pasteur, il a fait ça. Tu ne peux pas le croire, mais là, il faut que tu le croyes. Ça veut dire, laisse pas tomber ton jugement. On avait une grande discussion, pasteur Vellemann et moi, en Hollande, parce qu'on parlait de sortes de choses, tu sais, puis... Puis quand je suis dans cette région-là, ça me rappelle toujours la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, parce que c'est quand même un événement dans notre siècle qui a été assez marquant. Des millions de gens sont morts de cette folie furieuse qui a enflammé finalement l'Allemagne. Puis on parlait du principe de la soumission et de l'autorité. Puis on se posait une question en disant, mais comment certains sont embarqués là-dedans? Puis en passant, c'est pas si évident que ça. On est dans des situations en passant similaires. Les grands gnolls qui disent « L'ordre, on va mettre de l'ordre, c'est... » Là, tout le monde dit « Ouais! » Ça, là, c'est un mauvais temps. C'est un mauvais temps. Très mauvais. Donc, on se disait finalement, entre être soumis et obéir, il y a un rapport différent. Les Écritures nous exhortent et nous enseignent à être soumis. Pas vrai? Soyez soumis aux autorités. Maintenant, si ton concept d'être soumis aux autorités, c'est obéissance. Alors, si, par exemple, nos autorités disent de faire quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que vous faites au nom de ce que la Bible dit? Soyez soumis aux autorités. Écoutez, ça a l'air facile d'assis dans un salon, réfléchir de même quand ce n'est pas important. Mais quand là, tu dis, ton pays s'en va en guerre, tu n'es pas du tout d'accord avec cette guerre. Es-tu prêt à aller en prison? Es-tu prêt même à perdre ta vie? La soumission, on la voit dans des attitudes comme par exemple Daniel, le prophète Daniel, ou encore ses trois amis. Le roi, à un moment donné, il pogne une crise de folie, là, et puis il veut qu'on adore sa statue. Vous vous rappelez cette histoire-là? Et puis, on rapporte au roi que les trois Hébreux ne veulent pas se mettre à genoux devant la statue, ne veulent pas faire un culte. Ils restent debout. Ça fait que là, ils se font emmener devant le roi. Le roi, c'est dans un tempérament, le gars. Il est tout, là. Nebuchadnezzar, c'est un fou, là. Il a le pouvoir total, le gars. Total! Hey! Là, les gars, moi, je serais un petit peu timide. Là, il dit, là, vous allez faire ce qu'on vous dit, ça, là. En plus, tu n'as même plus de pays. Tu es un esclave. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus de droit là-dedans. Là. Statue. Ben, il dit, écoute, roi, vis éternellement. Moi, j'aurais dit, je suis hâte que tu meurs. Mais non, les autres souhaitent qu'ils vivent éternellement. Je dis, écoute, super. Bon, vis éternellement, roi. D'autres mots, tu n'as pas à avoir peur de nous autres. On ne fera pas de révolte ici. Tu n'auras pas un couteau dans le dos demain matin. Tu peux coucher tranquillement. On peut même être des gardes du corps privés, si tu veux. Tu ne peux pas avoir plus intègre que nous autres. On est soumis. Mais en ce qui concerne la statue, non. On ne fléchira pas le genou devant la statue, c'est hors de question. Non, mais même si tu as fait chauffer, Dieu, de toute façon, peut nous délivrer de toi. Puis même s'il ne nous délivre pas, ça ne change pas notre décision. Et ça, moi, là, c'est mes héros, ces gars-là. Ce ne sont pas vos héros, ça, ces gens-là? Écoute, ils sont calmes, du roi, ils sont calmes. Moi, je n'aurais pas été capable d'être calme d'abord. Mais lui, il s'en reste calme. Roi, vit éternellement. Mais on ne le fera pas. On ne le fera pas. Notre Dieu nous a appris à jamais fléchir les genoux devant un homme. C'est pour aujourd'hui qu'on va commencer. Puis si on est ici à Babylone, c'est parce qu'on a fléchi les genoux avant devant d'autres niaiseuses de statues. Ça fait qu'écoute bien Charles, on reste ici debout. Ben, c'est Charles, ça s'appelle Charles. C'est son prénom. Donc ça, c'est soumission, pas d'obéissance. Soumission sans obéissance. Parce que votre obéissance, vous en êtes tous responsables. Cachez-vous jamais derrière « j'avais pas le choix, il fallait que j'obéisse aux ordres ». Non. Non. Vous allez être responsable de tout ce que vous avez décidé. Et ça, il faut que ça soit clair parce qu'il y a trop de gens lâches qui ne veulent pas prendre de décision, qui cherchent religieusement des sectes pour qu'on pense pour eux autres. Ou d'autres, ils ne veulent pas de la religion, mais ils cherchent un gouvernement pour ne pas avoir à réfléchir. Chacun de nous sera responsable devant Dieu des décisions qu'on a prises. Donc, ça m'amène à mon point pour finir. Quand je vois tous les jugements qui se font là-dedans, il juge, il apprécie, il n'est pas d'accord, il est d'accord. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'instruction. Ça, dans tous ces passages-là, ça parle des gars qui sont en train de réfléchir de ce qu'ils vont faire. Notre vie, là, débouche dans ce qu'on va faire. Fait que première étape de l'action, c'est assis-toi, touche à rien, tourne-toi vers Dieu, entends ce qu'il y a à dire. Aie une intelligence renouvelée, parce que tout ce que tu vas faire sera jugé. On va être jugé. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, et que vous vivez n'importe comment et que rien vous arrive, j'aimerais juste vous rappeler une chose, vous n'êtes peut-être pas enfant de Dieu. Est-ce que c'est clair? Si vous vivez n'importe comment, si vous vivez dans la débauche, en passant tout ce qui est relations sexuelles en dehors du mariage, c'est de la débauche. C'est Dieu qui définit les termes. On n'est pas d'accord avec ça, on est dans une société plus évoluée. Non, tu es dans une société dégénérée, c'est pas pareil. Tu es dégénéré. Dieu dit, toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est de la débauche. Point final, une barre. Il n'y a même pas de commentaire, tu donnes même dans le grec, laisse faire le grec. C'est en français, puis c'est bien clair. Toute relation sexuelle en dehors du mariage, c'est de la débauche. C'est un manque de loyauté, ça montre le caractère très opportuniste qu'on a. C'est sale. Mais on s'aime beaucoup, on s'en sac. Ça s'appelle des émotions, chum. Fait qu'arrêtez de vous cacher dans ces choses-là. Dieu a déjà jugé ces choses-là, il les a définies. Peu importe la société, ce qu'elle dit, on s'en sac. Maintenant, si vous vivez n'importe comment puis votre conscience ne vous tiraille pas, ou vous vivez n'importe comment et rien ne vous arrive, rien ne vous freine, Moi, je vous rappellerai juste que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, il dit que Dieu corrige ses enfants, mais il ne corrige pas les enfants des autres. Il va y avoir un jugement pour les autres. Il va y avoir littéralement le jugement de ceux qui auront méprisé la parole de Dieu et son sacrifice. Et ça, il faut avertir tout le monde là-dessus. Mais on est tellement engourdi, j'aurais pu à Céline nous parler au début du... On est tellement engourdi par notre culture. Le péché rend abruti les gens. Le péché rend pas intelligent. Le péché enlève de plus en plus cette finesse de discerner la volonté de Dieu. Le péché rend l'être humain de plus en plus insensible à la crainte de Dieu. Et inévitablement à l'amour de Dieu. Si notre société nous a engourdis à ce point-là, moi, on devrait tous envoyer le message en disant, si vous faites le mal, puis même juste de le penser, parce qu'avant de le faire, on le pense. Si juste le penser, et vous n'êtes pas arrêté par le Saint-Esprit en disant que tu fais là, que tu penses toi là, oh, OK. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous pouvez penser ce que vous voulez, vivre comme vous voulez, puis vivre comme des débauchés comme vous voulez, puis rien ne vous arrive, je vais juste vous rappeler, vous n'êtes pas né de nouveau. Dieu ne vous a pas reconnu comme ses enfants. Vous ne lui appartenez pas. Vous allez périr. La colère de Dieu est toujours sur vous. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Par contre, vous pouvez crier au Seigneur et venir à lui. Parce qu'à un moment donné, il y a un dernier battement de cœur qui arrive et c'est fini. Et là, peu importe la société, ce qu'elle vous a raconté, essayez de faire un retour dans l'histoire. Regardez toutes les sociétés, ce qu'ils se sont racontées comme histoire. Pour vivre n'importe comment. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais ceux qui auront fait la volonté de Dieu demeurent. Les autres vont périr. Donc ici, on voit des hommes en train de prendre des décisions, réfléchir, faire des plans d'action, dire oui, dire non, je le prends pas, oui, je le prends. Il y a de la réflexion derrière tout ça. Donc ça veut dire que si je n'ai pas un renouvellement d'intelligence, comment je peux arriver à réfléchir? Donc, trois choses que Paul dit. OK, ben, tu veux prendre ton fils, prends ton neveu. On se sépare. Ils sont séparés de la mission. Il y a une certaine maturité quand même, là. Mais avez-vous remarqué, il dit, verset 40, « Paul fit choix de silence. » Qu'est-ce qui inspire son choix de silence? Trois choses. Le témoignage de silence, c'était quoi? L'Église de Jérusalem disait, verset 26, quand il parle de ces deux gars-là, là, Jude et silence, il dit, « Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ces hommes qui ont exposé leur vie. Ils se sont fait persécuter. Ils ont exposé leur vie. Ils ont manqué de se faire tuer. Donc, c'est des hommes de renom. C'est des hommes qu'on a dit, « Wow, ces gars-là, là, ils sortent de la moyenne. » Premièrement, c'est des gens qui ont fait leur preuve. Deuxièmement, c'est un prophète. Et je suis sûr qu'un prophète, c'est aussi un prédicateur. Quelqu'un que quand il parle, tu dors pas. Il va vraiment te chercher. Il expose les choses. Il y a vraiment quelque chose qui fait que quand ces hommes-là parlaient, il semble que le cœur des gens sont dévoilés. C'est comme si certaines personnes te les écoutent parler et c'est de l'information. C'est vrai, c'est bon. Mais c'est de l'information, on dirait. Il y a d'autres personnes, tu sais pas, c'est pas différent, c'est même pas un autre message. Il y a d'autres personnes que quand ils parlent, ils te parlent. T'es là, y a-tu quelqu'un qui a dit? Ils sont vraiment comme, wow, ça les perce. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de différent là. Le prophète, là, il y a quelque chose avec Dieu qui se passe. Et c'est pour ça que Paul dit, je préfère que vous soyez plutôt prophète que de parler en langue. Parce que si tu parles en langue dans ton assemblée, il y a personne qui comprend. Alors, si par contre quelqu'un est prophète, et qui parlent au nom du Seigneur, et que les secrets de leur cœur est dévoilé, là, la personne qui est rentrée dans l'assemblée dit, « Wow, Dieu est vraiment au milieu de vous autres. Qui c'est qui dit quoi, Isette, là? Y a-tu des micros à quelque part? » Les gens savent qu'ils sont vus, ils sont connus. Donc, Paul le choisit en disant, « Ça, j'ai besoin d'un cœur comme ça. Ça va nous mettre dans le trouble, je le sais, mais c'est ça que j'ai besoin. » Et troisièmement, parce que là, ça fait un peu mystique tout ça, right? Un, c'est comme le héros, c'est un gars qui a passé ses épreuves, il a ses médailles, ça c'est super. Il tient la route, parce qu'il n'est pas d'accord avec Jean-Marc. Jean-Marc n'a pas tenu la route, pour X raisons. Mais lui, ces gars-là ont déjà la réputation qu'ils ne font aucun cas de leur vie. Deuxièmement, il est prophète, il l'a entendu parler à l'Assemblée. Wow! Ça, il est clair, il sait où il s'en va. Et pour faire les choses plus pratiques, devinez quelle est l'autre raison qui a aussi stimulé le choix de prendre silence. qui ne voulait pas partir. Quoi. Ça serait dans la catégorie du gars là, qui ne fait aucun cas de sa vie. Ce n'est pas le gars qui s'informe. On s'en va en mission, c'est où? C'est-tu épeurant? Y a-tu des bébites? C'est vraiment le gars qui est là. Hey, wow, il y a une porte qui s'ouvre. Let's go. Tu risques de mourir. Hey! On va mourir de toute façon. C'est mieux de mourir comme du monde que de mourir plate. Fait que, c'est comme des gens de fous. Là, c'est trop beau. Non, mais il y a une autre raison plus pratique. Vraiment pratique. Est-ce que vous vous rappelez quand il a fini en prison? Dans le deuxième voyage, il l'amène avec lui. Pardon? Il chante bien, entre autres. Il était avec Paul, puis ils se font battre. Vous vous rappelez? Il appelle un émeute. Quand Paul prêche, là, c'est drôle, ça fait du oui ou non. C'est pas des peut-être. Il n'y a vraiment pas de peut-être quand Paul a passé dans le bout. Fait qu'il finit régulièrement, l'hôtel était payé par l'État, dans la prison. Tu vois? Donc, ils sont fait battre en prison tous les deux, et qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Ça, c'est une chose. Mais, le lendemain matin, puis là, tu vous rappelles l'histoire, tremblement de terre, et puis là, finalement, le geôlier se convertit à la maison. Bref, grosse affaire. Le lendemain matin, les autorités disent, OK, relâchez-les. Relâchez-les. Fait que Paul dit, pas vraiment. Comment ça? Nous, pas je, nous sommes citoyens romains. C'est comme ça qu'on traite un citoyen romain. Pas de panique à bord. Il met la panique dans le conseil municipal. Grave erreur. Puis Paul ne partira pas. Et silence non plus. On dit, hey, wow, Paul ne va pas penser à ça, c'est super bon ça. Nous sommes citoyens romains. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent l'Église. Ils disent, approchez pas, vous ne savez pas qui est encore citoyen romain là-dedans. Et ils se servent de ce que Dieu, ils savent que l'autorité normalement civile est pour l'œuvre de Dieu. Les autorités ont été établies pour notre bien. Et ils remettent en ordre le but de ces autorités de servir la cause de Christ. Et ça a été très bien. Donc, Silas est aussi un citoyen romain puisqu'il dit, nous sommes citoyens. Trois choses. C'est quelqu'un qui a de la maturité. Il tient la route. C'est dans l'épreuve que tu vois ce que quelqu'un dit. Quelqu'un peut avoir de l'habilité intellectuelle, répéter la doctrine très rapidement, dire le grec et l'hébreu de la doctrine, mais à un moment donné, quand l'épreuve arrive, il vient humide dans ses culottes. Et ça tient mal la route, puis ça sent pas bon, puis c'est pas le fun. Non, c'est vrai. C'est que ça fait que ceux-là, tu les mets de côté. Deuxième catégorie, pourquoi il fait un choix? Pourquoi il choisit silence plutôt qu'un autre? C'est un prophète. Il a une communion avec Dieu. Il est loin. Quand le message sort, c'est clair. Troisième, hey, il y a une société romaine, on va s'en servir. Ça va aider les églises. On va prendre tout ce qui est à l'avantage. Donc, ça devient vraiment des gens qui pensent, qui réfléchissent. Tout ça, c'est de la réflexion sans arrêt. Mais pour réfléchir, il faut que tu aies des outils pour réfléchir. Il faut avoir des outils pour réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir dans le vide. C'est pas vrai qu'on pense ex nihilo. De rien, j'ai réfléchi une chose. Non, de rien, s'il n'y a rien dans ta tête, mon pauvre toi, là, c'est triste. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Tu ne te tires pas par tes lacets en dehors du Trudeau. Tu comprends-tu? Tu penses à partir d'une pensée. Nous sommes analogiques, à l'image de. Donc, de qui es-tu l'image pour maintenant agir? Christ ou le monde? Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Sans renouvellement d'intelligence, Romains 12, tu ne peux pas réfléchir et discerner la volonté de Dieu. Impossible! L'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est spirituellement qu'on les discerne, comme Paul le rappelle aux Corinthiens. Pas de renouvellement d'intelligence, pas s'exposer aux Écritures, pas se mettre sous le ministère des docteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes en vue du perfectionnement des saints pour arriver à maturité, pour entrer dans les œuvres que Dieu prépare, on peut gâcher notre vie chrétienne à 100 000 à l'heure. Trop de gens sont prêts à partir, mais ils ont encore totalement la pensée du monde. La bonne pensée du monde, mais pas la pensée de Christ. C'est pour ça qu'on a un collège biblique, c'est pour ça qu'on a une faculté. C'est pas pour faire du snobage. Je ne comprends pas comment des gens disent « Moi, je peux discerner la volonté de Dieu mystiquement peut-être? » Erreur. Non. Si tu méprises ce que Dieu a fait marquer clairement dans son livre, puis tu vas le voir en disant « Parle-moi », tu penses que Dieu va te parler? Es-tu fou? T'es-tu rendu abruti à ce point-là? Si je ne m'approche pas d'abord du conseil de Dieu, retournons à la loi et au témoignage, les prophètes ont dit. Sans ça, on s'est inventé un évangile, on s'est préparer un Jésus sur mesure qu'on aime bien, à notre image, à l'image d'un siècle. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut retourner régulièrement devant Dieu en disant, « Sonde-moi, Seigneur, et vois si je marche sur le chemin de l'éternité. » Parce que je peux prendre des mauvaises décisions. Je peux m'avoir tenu avec des gens qui ont corrompu mon entendement. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Seigneur, sonde-moi. Et prenons tous les moyens, parce que la tâche va être de plus en plus difficile. Mais c'est de plus en plus passionnant, quand même. Les portes que Dieu nous ouvre, là, fantastique. Fait que gardons l'héritage que Dieu nous donne. On va continuer à le développer. Apprenez-le à vos enfants, apprenez-le à vos petits-enfants, que ça devienne continuellement un prétexte de toujours dire, est-ce qu'on sait ce que Dieu dit de la situation? Exerçons-nous à toujours être capables de discerner selon les Écritures et d'être capables de diviser droitement les alliances pour savoir est-ce qu'on comprend bien la volonté de Dieu. Prenons tous les moyens qu'il faut. Amen. Seigneur, les apôtres, lorsque tu les as mis au défi, après que la foule soit partie, après que même les disciples, les 70 peut-être étaient même partis, il ne restait que les 12 que tu te gardais. Tu les gardais toi-même. Mais tu les as même provoqués. Tu savais très bien que leur action était pour être le résultat de ce que toi, tu as investi dans leur vie. Alors tu fais les défis en disant, vous ne voulez pas partir, et tu savais très bien qu'ils ne partiraient pas, Seigneur, car tu avais nourri leur foi. Tu les avais toi-même saisis. C'est toi qui les connaissais. C'est toi qui les avais choisis. Et c'est toi qui les gardais. Alors l'apôtre Pierre te répond, à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Et Seigneur Dieu, en tant qu'Église, je ne connais pas tout le monde ici, je peux pas. Toi tu connais tout le monde, tu connais le besoin de tout le monde, tu connais où tout le monde est rendu ici. Nous on vit de l'extérieur. Toi tu sondes les cœurs. Je ne sais pas qui est né de nouveau ici, mais je peux juste les avertir selon ta parole que s'ils vivent n'importe comment, selon ta parole, tu dis que tes enfants ne peuvent pas vivre n'importe comment. Tu vas les discipliner parce qu'ils ont une destinée. Ils ont du prix à tes yeux. Ils ont une manière de vivre parce qu'ils font partie de la race royale de Dieu, rachetée par un précieux sang. Et s'il faut, tu es prête à leur casser une jambe pour avoir toute leur attention. Alors, Seigneur, je te remercie pour tous ceux que tu corriges ici, tous ceux que tu mets devant des ultimatums, tous ceux que tu arrêtes le chemin de la démence pour les affranchir par ta parole et par ton esprit. La vérité vous rendra libre, libre de toute la corruption que le péché produit dans nos vies, libre de tout l'abrutissement, de même perdre contrôle de nous. Alors, tu nous redonnes de pouvoir se posséder pour marcher dans ce que toi t'as préparé. Et ce qui est vraiment une vie, mais la vraie vie, la vie en abondance. Seigneur, bénis-nous, s'il vous plaît. Bénis-nous par ta parole, bénis-nous par ton esprit. Conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur Dieu, et réveille-nous. Si jamais on s'endort, si jamais on s'est raconté des histoires, si jamais on se rassure de autre chose que ce que toi t'as fait pour nous, de ce que toi t'es pour nous, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, réveille-nous. Réveille-nous pour l'amour de ton nom et parce que tu nous aimes, Seigneur Dieu. Bénis-nous, s'il vous plaît, Père, et qu'on puisse continuer à rendre témoignage, et que, comme pour l'Église d'Éphèse, on ne veut pas, Seigneur Dieu, que tu enlèves le chandelier que nous sommes dans la région. Parce que nous aussi, on est un chandelier comme d'autres églises. Et est-ce qu'on va être fidèle? C'est ceux qui finissent la course qui la gagnent, pas le départ. C'est la fin qui compte. Alors, Seigneur, s'il vous plaît, ne permets pas qu'on s'égare. Par Jésus-Christ que je te le demande, que nous te le demandons, Seigneur. Et merci d'avance, Père, parce que je sais que c'est selon ta volonté. Bénis la semaine, bénis les vacances des uns et des autres, bénis nos temps en famille, bénis toutes nos activités, manifeste-toi au milieu de nous et que toutes nos rencontres soient toujours dignes de ta présence. Que vous mangiez, vous buviez, que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur. Et merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, tout le monde.